quand je demande à Dieu de me diriger pour un message, il m'arrive quelquefois que la réponse me soit donnée dans un rêve. La nuit. Par exemple, quand j'ai donné il y a quelque temps un message sur la traversée de Paul au milieu de la tempête, j'avais reçu ça, je prêchais dans un rêve. Donc j'avais conclu que je devais... Et c'était il y a de longues années, ça. Et il y a une douzaine de jours, j'ai fait un rêve. J'ai fait un nouveau rêve où je devais parler devant une assemblée. C'était pas dans une église, mais c'était devant des anciens collègues de travail. Ah bon ? Mais il y avait un pupitre là, je devais aller au pupitre. Et puis j'avançais vers le pupitre et je savais pas ce que je devais dire. Alors ce genre de situation, j'aime pas. Je savais pas ce que je devais dire. Et puis j'étais là devant, puis d'un seul coup, j'avais deux mots. J'avais deux mots qui me sont venus, j'ai commencé à parler sur ces deux mots. Et ces deux mots, qu'est-ce que c'était ? Ces deux mots, c'était « bien terminé ». Bien terminé. Et au réveil, j'en ai conclu que ça devait être le thème de ce message. Le Seigneur veut attirer notre attention sur le danger de ne pas achever ce que nous commençons avec lui. Le sujet de l'inachèvement m'interpelle beaucoup. Je me souviens d'une parole prophétique que j'ai reçue en 1991. Elle m'a mis en garde, cette parole. Elle m'était adressée par un serviteur de Dieu connu pour son onction prophétique. C'était au tabernacle à Tourcoing, il y avait 400 personnes là. Puis il y en a un qui m'a dit « Vous le barbu là-bas » Et dans cette, il y avait beaucoup d'encouragement, mais il y avait dans cette parole prophétique « Tu as tendance à laisser tomber ce que tu as sous la main, pour t'atteler à ce qui vient demain. Aussi, dans ta vie, il y a parfois certaines choses inachevées derrière toi. » Ouh ! Ce problème de l'inachèvement, n'avons-nous pas entendu souvent cela à propos de la région, de la France même peut-être ? L'esprit d'inachèvement ou l'esprit d'avortement, on citait. Mais je l'ai souvent vérifié dans les faits, dans les événements. Des œuvres démarrent, puis d'un seul coup, elles s'arrêtent. Elles sont pleines de promesses, et puis ça s'arrête. Mais bon, il y a plus important qu'une œuvre, c'est nous. Et il y a plus grave que l'arrêt d'une œuvre, c'est l'arrêt d'une personne dans son appel. Et ça se traduit forcément dans les œuvres, hein. Alors je pense qu'on est tous concernés par cette injonction du Seigneur ce matin, bien terminée. On est tous concernés. Je pense qu'il n'y a personne qui peut se dire « ça ne me concerne pas ». Je rends grâce à Dieu de ce que, avec les années, il m'a rendu plus attentif à cette injonction. Et notamment dans toute cette période, il y a 5 ans maintenant, où je devais terminer mon travail pastoral à la tête de l'Église, mon travail, ma carrière professionnelle. Il m'a envoyé au bon moment des personnes. Je me souviens d'une soirée fraternelle en dehors d'ici où j'ai entendu l'exhortation d'une sœur qui expliquait l'importance du passage de relais dans une Église. Et cela a orienté ma réflexion à l'époque, je me souviens, et ma prière, j'ai crié au secours, « Seigneur, occupe-toi de ce passage de relais. » Là, je ne vois pas comment ça va se faire, mais j'étais conduit à solliciter l'aide de frères expérimentés, Florian Rocha, qui est ACP, qui nous a beaucoup aidé. Puis Dieu a envoyé Robert et Sylviane exactement dans le bon timing, dans un timing parfait. Et vous connaissez la suite, avec les 3-4 ans qu'ils ont mis à la tête et le passage de relais ensuite à Pascal et Michel. Ouais. Dans un timing parfait, Pascal est arrivé pour me remplacer à la présidence de l'association. Dieu a su libérer du temps que nous avons pris ensemble aussi pour régler cette succession. Je me souviens de ma dernière année professionnelle, le lycée où j'ai fait toute ma carrière. Là aussi, j'ai beaucoup prié pour que ça se termine bien. Et incroyablement, alors que j'avais un poste chargé les derniers mois, Dieu a libéré du temps pour que je puisse laisser quelque chose de propre et de clair pour la personne qui allait me succéder. J'ai pu constituer pour mon remplaçant un cahier des charges qui est encore utile aujourd'hui sur mon poste. J'ai vu la fidélité de Dieu jusqu'au mon dernier jour de travail, où j'avais une liste de choses. Je dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Et une à une, clac, 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 toute la journée. Et ma liste était complètement rayée à la fin de la journée. Quand on veut bien terminer, Dieu vient à notre secours. Vous le croyez ? Quand on veut bien terminer, Dieu vient à notre secours parce qu'il est attentif à l'empreinte que nous allons laisser. Tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, laisse une empreinte. Une empreinte. Tout ce que nous sommes. Le Seigneur est heureux, et nous pouvons l'être aussi, quand nous laissons une bonne empreinte, quand nous laissons l'empreinte du Christ à la fin d'une mission, d'une étape, d'une tâche. Alors vous comprenez bien que l'appel à bien terminer ne concerne pas seulement quelqu'un qui pense partir à la retraite, mais concerne toute personne qui est en vie. Moi, je suis peut-être retraité, mais je suis encore en vie. Et j'ai encore des choses à accomplir. Amen, Robert. Ça concerne toute personne qui est en vie, quel que soit son âge. Ça peut concerner quelqu'un qui s'apprête à changer de travail. Et je pense que si le Seigneur m'a donné ça, c'est qu'il veut parler à l'un ou à l'autre, à plusieurs parmi nous. Et il nous dit, attention, termine bien ce que tu as commencé. On peut quitter un travail avec perte et fracas, si je peux m'exprimer ainsi, comme ce jeune que je voyais souvent ces derniers temps à la baraque à frites, où j'achète des frites. Je le connaissais un peu, ce jeune, par sa mère, et je lui parlais un peu. Puis un jour, je suis allé acheter ma portion de frites, et je ne voyais plus ce jeune. J'ai demandé des nouvelles. Et puis le responsable de la baraque à frites m'a dit, il est parti d'un seul coup, sans laisser de traces, sans un coup de téléphone, sans un appel téléphonique, sans un SMS. Il est parti avec des habits qui ne lui appartenaient pas, avec des clés, sans rien dire. Oh, dommage. Dommage. Inutile de dire qu'il laisse des personnes blessées par son attitude. Ce jeune a fait du tort aux autres. Il a blessé, mais il s'est fait du tort à lui-même. Car vous savez, son responsable m'a dit qu'il refuserait de signer le moindre papier pour lui si on lui demanderait. Ainsi, on peut mal terminer son travail, sa carrière, par négligence, par égoïsme, peut-être par découragement, par le ressentiment, voire la colère. On peut mal même terminer son temps dans une église. Comme le travail aussi, on peut la quitter avec perte et fracas et laisser des blessures derrière. On peut mal terminer une relation. Il y en a qui se terminent bien, sans blessure. Il y en a qui se terminent mal. Peut-être parce que le pardon n'a pas été échangé. Apprendre à bien terminer, c'est apprendre d'abord à bien terminer sa journée. Et on l'a vu avec le message de Robert, bien terminer sa journée pour bien dormir, bien récupérer. Si par exemple on se couche souvent, on s'habitue à se coucher dans la colère ou dans la frustration, on risque de bien mal terminer beaucoup de choses. Alors en résumé de cette introduction, avant que je prenne la parole de Dieu, mais je ne serai pas très long, ne vous inquiétez pas, je dirais ceci, soignons toute fin de tâche, toute fin d'étape, toute fin de mission, d'un parcours, d'une simple journée, pour ne pas laisser une mauvaise empreinte au lieu de l'empreinte du Christ. Apprenons à bien terminer pour ne pas manquer la cible, le but de Dieu pour notre vie. Et j'en viens maintenant à la parole de Dieu que j'ai reçue le lendemain du rêve. C'est 2 Timothée 4, à partir du verset 6, mais ça sera surtout le verset 7. Mais je vais lire 6 à 8 quand même. Et je vais commenter un peu ce passage qui concerne toujours le thème de bien terminer. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, je voudrais surtout m'arrêter donc sur le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Waouh, c'est fort ça, hein. Oh. On est bien dans le sujet, Paul l'apôtre, là, sent pas la fin d'une étape, il sent carrément la fin de sa vie. Il sent sa fin proche et il a cette assurance qu'il a achevé sa course, qu'il a bien terminé. Je voudrais bien pouvoir dire la même chose à la fin de ma vie, hein. Pas vous ? Bon, notre vie dans la Bible est comparée à une course. On peut dire que tous, nous sommes comme dans une course, avec un but à atteindre. Ailleurs, dans d'autres lettres, Paul dira « Je cours, non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire sans savoir où je vais, hein. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quel est, en résumé, le but de Dieu pour nos vies, l'axe sur lequel Dieu place notre vie ? Qu'on ressemble à Christ, essentiellement. Qu'on ressemble à Christ. Et ça, c'est commun à nous tous, vous êtes d'accord ? Que Christ soit formé en nous. Que ma vie porte les fruits de son Esprit Saint. Que ma vie révèle aussi une facette particulière du Christ en fonction de l'appel particulier qu'il m'adresse. Parce qu'il y a aussi un appel particulier et des dons particuliers. Alors, chers amis, comment bien terminer la course de notre vie en permettant que Christ soit vraiment formé en nous ? Paul dira, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à que Christ soit formé en vous. Alors si Paul, un apôtre, souffre pour que Christ soit formé chez les autres, en nous aussi, certainement. Ça passe aussi par la souffrance. Supporte les souffrances, Paul dira à Timothée. Nous devons atteindre le but de notre vie, ce que nous venons de décrire. Et Paul dit en quelque sorte qu'on peut être disqualifié en nous trompant de combat, en perdant la foi. Nous pouvons être disqualifiés en nous trompant de combat, en perdant la foi. Alors, comment on peut se tromper de combat ? On peut se tromper de combat de plusieurs façons. D'abord, en connaissant mal notre appel. On a vu un dimanche ensemble, l'importance de connaître notre profil. Quelle est la passion ? Quel est le rêve qu'on a reçu ? Il y a beaucoup de souffrances inutiles et des ratés dans notre vie par manque de connaissance de notre appel. Le mot grec pour achever est téléo, qui veut dire faire juste ce qui est commandé. Faire juste ce qui est commandé, pas plus. Quelquefois on voudrait. Et souvent si on va au-delà de notre appel, on s'épuise. Quand on sort de notre appel, on s'agite et on s'épuise facilement. Et on perd notre joie. Et il est important que notre course, on continue de la faire avec joie. Paul a toujours dit, pourvu que je poursuive ma course avec joie. Est-ce que vous êtes dans une course en ce moment et vous avez la joie de courir ? Si vous n'avez pas la joie de courir, attention, le Seigneur veut mettre le doigt dessus là ce matin. Attention, qu'est-ce qui est la cause de cette joie-là qui est perdue ? On peut aussi ne pas avoir la joie parce qu'on n'a pas répondu à cet appel que Dieu nous adresse. Et ces derniers temps, j'ai éprouvé beaucoup de joie dans des situations où j'évangélisais, où je racontais mon témoignage. C'est pour moi un signal clair que c'est vraiment une dimension où je dois persévérer. Comment encore on peut se tromper de combat ? Je l'évoquais un peu en introduction, en priorisant l'œuvre sur la personne. Dieu est toujours plus intéressé par nous que par notre œuvre. Et et aussi notre vision, même si c'est important de ne pas être sans vision, bien sûr. Dieu peut permettre, je l'ai souvent dit ça, on l'a souvent entendu, que nous mourions un temps notre vision pour que nous réalisions que Dieu voit plus loin que notre vision. Il veut former des fils et des filles avec qui il règnera pour l'éternité. Je suis encore dans un mauvais combat si sans cesse je suis victime de moi-même. Si je suis victime de moi-même. Et je reprends là une citation de Jean-Marc Potenti, qui est un apôtre ici en France, et qui est venu une fois parler sur ce thème à CP. Il a dit ceci: le bon combat, c'est bien se connaître en évitant d'être victime de soi-même. Le bon combat dans chaque tension, chaque conflit, c'est discerner la part qui m'incombe pour que je sois guéri et transformé. Et il a rajouté ceci: il y a beaucoup de combats illégitimes liés à un contexte de solitude, de repli, d'isolement et d'absence de couverture. L'antidote, dit-il, c'est la vie en équipe. La vie en équipe, le travail en équipe, trouve ses racines dans la nature de Dieu. Trois personnes. C'est le climat du royaume de l'Église et de l'Église. Alors, être enfin encore dans le mauvais combat ou être dans le bon combat, c'est rester résolument toujours sur le terrain de l'amour. L'amour vrai, on l'a vu. L'amour agapé. Cet amour qui a sa source en Jésus. Hein, rappelez-vous cette description de cet amour vrai dans Ésaïe 58, il y a 3 semaines ou 4 semaines. Un amour qui se manifeste par un profond respect de l'autre, par une compassion pour celui qui souffre et par un désir constant de plaire à Dieu. Alors je termine avec cette dernière déclaration de Paul: j'ai gardé la foi. Paul a gardé la foi malgré tout ce qu'il a subi. Et est-ce qu'on mesure tout ce qu'il a subi? Je ne crois pas. Il a connu la persécution, il a été menacé de mort, il a frôlé la mort plusieurs fois, soit par des coups qu'il a reçus, soit par des naufrages en mer ou autre. Il a dû lutter contre des faux docteurs qui contestaient son autorité d'apôtre. Il avait beaucoup de responsabilités, portait très fort les églises qu'il avait fondées, et malgré tout ça, il n'a pas perdu la fraîcheur de la foi. Et au moment où il écrit cette lettre, c'est incroyable, Paul est dans un contexte où plein de gens l'ont abandonné. 3 fois il mentionne, 3 fois dans l'épître, dans le premier chapitre, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Entre autres, Figel et Hermogène. Dans chapitre 4, verset 10, ils disent: « Car Démas m'a abandonné. » Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Et dans le verset 16, il dit: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Waouh ! Voilà le contexte dans lequel se trouve l'apôtre Paul au moment où il écrit: j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Et malgré tous ses abandons, Paul ne s'est jamais senti abandonné par Dieu. Il a gardé la foi. Mais comment a-t-il réussi à garder la foi? Quel était son secret? J'étais là dans ma réflexion, et quand j'ai eu une réponse limpide de l'Esprit-Saint, Paul a appris à avoir la tête dans le ciel, tout en ayant bien les pieds sur terre. Il avait bien les pieds sur terre, je m'empresse de le dire, parce que souvent il écrivait aux églises en disant: il faut s'occuper de telle église qui est dans la persécution, dans la famine, etc. Il avait bien les pieds sur terre, mais il avait la tête dans le ciel. Il était connecté constamment avec le ciel. Déjà au commencement de sa vie chrétienne, il rend témoignage qu'il a obéi à la vision céleste qu'il avait eue sur le chemin de Damas. Il a dû se souvenir longtemps de la lapidation d'Étienne où il a vu Étienne qui s'exprimait un moment. Je vois les cieux ouverts, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Dans ses lettres, il témoigne que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du profond mystère du salut. C'est par révélation qu'il connaît Jésus-Christ. Sans cesse, il a témoigné de son désir de le connaître davantage. Je considère toute chose comme une perte, a-t-il dit, à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ. Rappelez-vous dans cette fameuse tempête-là, dans son voyage à Rome, où c'est suite à l'apparition d'un ange venu du ciel qu'il a repris courage et qu'il a redonné courage à l'équipage. Il a bien terminé sa course, il a gardé la foi parce qu'il était connecté avec le ciel. Pascal parlait de la connexion il y a quelque temps. Malheureusement, beaucoup de ceux qui l'ont abandonné probablement n'étaient plus connectés avec le ciel, comme Démas qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Oh. Quand Jésus a reçu l'Esprit à son baptême, Jean témoigne qu'il a vu une colombe descendre du ciel. Il a vu le ciel ouvert. Et il a dit, une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et nous, avons-nous la tête dans le ciel? Sommes-nous connectés avec le ciel? Tout en gardant les pieds sur terre, hein? Ne sommes-nous pas nés d'en haut? On est nés d'en haut, vous êtes d'accord? On est nés d'en haut. Si on est nés d'en haut, on ne va pas poursuivre notre vie chrétienne avec nos simples pensées humaines. Mais on a besoin de cette connexion constante avec le ciel. N'avons-nous pas reçu Jésus, le pain du ciel? N'avons-nous pas reçu l'Esprit qui vient d'en haut? Soyons connectés avec le ciel en cherchant les choses d'en haut, comme nous recommande Paul. Impossible de bien terminer notre course et garder la foi sans avoir la tête dans le ciel. Le mot grec pour le verbe garder signifie regarder attentivement, poser son regard sur, percevoir par la vue spirituelle, jouir d'une présence, la présence de Dieu. Pour percevoir par la vue spirituelle, il faut prendre le temps de nous poser, de nous détacher de tous nos écrans. Vous voyez ce que je veux dire? De nous recueillir dans le silence, de méditer la parole sans se presser. Des fois, ouais, merci Seigneur, j'ai eu mon culte personnel, ça va, c'est bon. Nous avons besoin d'avoir notre intelligence renouvelée, comme le dit Paul dans Romains 12. Pour ne pas rester avec des pensées humaines, oui. Pierre, qui était connecté avec le ciel quand même, parce que c'est en étant connecté avec le ciel qu'il a compris qu'il ne devait pas considérer les païens comme impurs. Il a une vision. C'est en étant connecté avec le ciel, Pierre, qu'il a compris que Jésus était bien le Christ. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, dit Jésus. Mais un moment où il était plus connecté avec le ciel, il a dit non, non, Jésus t'ira pas à la croix. Et Jésus doit lui dire « Arrière de moi, Satan !» Donc, quelquefois, nos pensées humaines et nos raisonnements humains nous font dérailler, peuvent nous faire dérailler. On a besoin de ce renouvellement de l'intelligence, cet alignement avec la pensée du ciel, la pensée du royaume de Dieu. Ça va nous aider à faire gravir, à gravir les obstacles sur notre route. Même si on doit subir un temps, parfois un petit décalage avec quelques-uns à côté de nous. C'est une souffrance peut-être à supporter. Quand on est toujours connecté avec le ciel, quelquefois il y a un décalage avec certains qui ne comprennent pas. Et dans ce cas-là, seul notre amour peut réduire ce décalage. Seule ma persévérance à continuer de prendre soin de l'autre qui est en décalage. Chers amis, il nous faut désirer fortement ce pain du ciel. Chaque fois qu'on prend la scène, je vous encourage à dire votre soif et votre attente d'un ciel ouvert. Votre attente de recevoir plus de révélations, davantage connecté avec le ciel où Jésus règne. nous régnerons avec lui. On a besoin de demander constamment pour notre vie, notre maison, nos rencontres à l'église, notre vie à l'extérieur, un ciel ouvert, une connexion avec le ciel, pour des rendez-vous divins, pour recevoir la parole, la vision céleste, la sagesse divine, qui nous fera aller plus loin, qui nous fera tenir dans l'épreuve, pour terminer notre course et atteindre notre but, comme Paul. Et cette connexion avec le ciel nous fera recevoir la parole qu'il faut au bon moment. Et c'était une autre leçon de mon rêve, quand j'avançais vers le pupitre et que je ne savais pas qu'est-ce que je vais dire. Et que je commençais à ouvrir la bouche, et puis les mots sont venus. Je crois que c'était une interpellation à m'attendre à la connexion. Et je termine en conclusion avec le verset 8. Après cette fameuse déclaration de Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, il dit ceci, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tiens, une autre traduction dit, mais encore à tous ceux qui auront attendu avec amour son retour. Voyez la preuve que Paul était bien connecté avec le ciel. Il déclare et il exhorte l'attente du retour de Jésus avec amour. Avoir la tête dans le ciel, c'est attendre son retour avec amour, avec empressement, le retour de Jésus qui viendra du ciel. Je termine avec une parole, je l'ai déjà citée, je pense une fois, mais du pasteur Dietrich Bonhoeffer, alors qu'il était emprisonné, c'était un pasteur qui a résisté au nazisme durant la dernière guerre. Il a payé sa résistance au prix de sa vie. Il a dit, je tiens debout parce que quelqu'un me tient. Je tiens debout parce que je suis attendu. Alors je vais dire autrement cette phrase, mais je vais dire, je vais aller au bout et je vais bien terminer ma course. Parce que Jésus me tient. Je vais aller au bout parce que je regarde vers le ciel, là où Jésus m'attend. Amen.